Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Main Vous Fasse. Et cet après-midi, on s'intéresse à la question du temps qui passe. Le temps, c'est sans doute la question la plus mystérieuse de toutes, selon notre invité, le grand physicien Carlo Rovelli. Nous essaierons de mieux comprendre quelle est sa nature, pourquoi par exemple le temps passe plus vite à la montagne qu'à la plage, pourquoi le temps est-il irréversible, quelle est la différence entre temps et durée, pourquoi le passage du temps peut-il nous angoisser, pourquoi avons-nous l'impression de vivre une grande accélération du temps, pourquoi semble-t-il filer plus vite quand nous avançons en âge. Nous verrons qu'il est urgent de réviser quelques notions élémentaires sur le temps. Mon complice cet après-midi, Julien Bisson, bienvenue dans Grand Mère vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Carlo Rovelli.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous enseignez la physique à l'université Aix-Marseille, après être passé par l'université de Pittsburgh aux États-Unis. Vous êtes célèbre pour votre théorie de la gravité quantique à boucle, qui a pour ambition de décrire la nature en réconciliant la mécanique quantique et la relativité générale. Vous avez connu un grand succès avec vos 7 brèves leçons de physique et vous publiez un nouvel ouvrage absolument formidable chez Flammarion, à la fois accessible et rigoureux, L'ordre du temps. Alors, comme pour beaucoup de monde, le temps, c'est une question qui me fascine, c'est une question qui effraie parfois, tellement elle est vertigineuse. Pour vous, la nature du temps est un mystère, sans doute le plus grand de tous les mystères.
Oui, il est un mystère. Nous avons découvert plein de choses sur le temps, des choses surprenantes, des choses qu'on ne s'attendait pas. Le temps passe à des vitesses différentes, le présent n'est pas défini partout dans l'univers, plein de choses. Mais quand même, il y a encore plein de questions ouvertes sur le temps, et c'est ça qui fait le mystère.
Par exemple, quelles questions ouvertes ?
Ben, par exemple, la vraie raison pour laquelle le passé et le futur sont différents l'un de l'autre, on l'a pas encore compris, on ne la connaît pas. On dit, quel est le temps ? Ben, il est 10h10. Qu'est-ce que ça veut dire ? On se place par rapport à d'autres choses qui arrivent. Non ? C'est ça le temps. C'est la réponse à la question « quand ?». Et la réponse à la question « quand ?», c'est toujours « quand quelque chose d'autre se passe ?». Donc finalement, il n'y a pas du temps. Il y a des choses qui se passent et qui sont en relation les unes avec les autres. Et ça, c'est la notion la plus simple de temps. Une relation entre des événements. Mais ça, c'est autre chose que dire combien de temps a passé entre le début et la fin de cette émission, une heure. Qu'est-ce que ça veut dire, une heure ? Cette mesure du temps, c'est autre chose que tout simplement se situer dans le temps.
Comment expliqueriez-vous le temps à mon neveu de 8 ans, hein, qui rêve de devenir astronaute ? Qu'est-ce que vous lui diriez pour essayer de lui faire comprendre ce qu'est le temps ?
Ah, je resterai en silence parce que si le gamin me demande qu'est-ce que le temps, moi je dirais
Alors, on peut peut-être dire que nous habitons le temps comme les poissons habitent l'eau.
Oui, il y a deux côtés de cette métaphore qui est très belle et je pense que ça nous donne des bonnes intuitions. Les métaphores servent à ça, non? Pour nous orienter, nous aider. On comprend quand on fait une connexion avec quelque chose d'autre qu'on comprend. Alors, le poisson est dans l'eau, il ne pourrait pas être sans l'eau autour de lui. Donc il vit dans l'eau, l'eau c'est sa nourriture aussi. Donc nous ne pouvons pas nous penser dans le temps. Mais en même temps, on a l'impression que l'eau n'est pas, le poisson ne voit pas l'eau. Parce que finalement, c'est plus naturel autour de lui. Et nous ne voyons pas le temps. Donc il y a un aspect invisible du temps. Effectivement, nous ne voyons jamais le temps, non ? Nous voyons des horloges qui marchent, nous voyons des choses qui changent. Il n'y a pas une chose, temps. Le temps, c'est l'ordre des choses qui se passent.
Et la notion de temps est tellement difficile à définir qu'on recourt, vous le dites, à des images, à des métaphores.
À des métaphores. Ouais. Et surtout, c'est ça qui est la découverte récente, un siècle, hein, pas très récente, de la science. le temps qui passe, notre intuition de comment le temps passe n'est pas correcte. Elle est bonne pour notre
vie quotidienne.
Et nous sommes des créatures un peu grossières qui ne voient pas les détails. Donc elle est bonne, bien sûr. Mais deux, qu'on commence à mesurer le temps avec plus de précision ou à se demander comment le temps marche dans le très petit ou dans le très grand, on se rend compte que le temps marche de façon très différente de notre expérience.
Est-ce qu'on peut dire que le temps est une bonne grille de lecture que nous collons à la réalité pour lui donner un sens, comme le pensent certains physiciens ?
Oui. La notion de temps est une notion stratifiée, à beaucoup de couches. Le temps est comme un oignon. il y a un cœur central qui est tout simplement le fait que les choses se passent. Mais après, il y a beaucoup de couches qui sont naturelles pour nous. Le temps est le même pour tout le monde. Le temps va du passé vers le futur. Il y a un présent dans l'univers, etc., etc. Toutes ces couches, on se rend compte qu'elles sont différentes les unes des autres. Donc, c'est une notion, la notion du temps, qui marche bien dans notre expérience. Mais cette même notion, cette grille pour comprendre le monde, il faut la changer pour pouvoir comprendre les choses plus en général.
Dans votre ouvrage, vous mêlez physique, philosophie, poésie, et puis des exemples tirés de la vie quotidienne.
Moi, je pense que le savoir et la connaissance est intéressante quand on l'intègre dans une vision globale du monde. Alors, bien sûr, la culture moderne, ça nous porte vers la spécialisation. Chacun sait tout sur une chose très petite, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Il nous intéresse comprendre une chose quand on l'intègre dans une vision générale. Et la science elle-même, je pense, a du sens quand elle se parle avec la philosophie, la littérature, avec notre vie quotidienne. C'est pour ça que je parle de Proust, je parle de
Mahabharata.
Pardon ?
Du Mahabharata.
Du Mahabharata, exactement. Je parle de notre propre émotion du temps dans le livre. Tout ça doit être ensemble pour être intéressant pour nous, je pense.
Julien Bisson, vous avez lu l'ouvrage de Carlo Rovelli ?
Oui, j'ai trouvé cela absolument formidable. J'avais déjà lu par le passé plusieurs essais sur le temps, des essais parfois assez difficiles. Je pense à Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, qui avait été un grand succès populaire, mais qui était assez difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'avait pas la fibre scientifique. Et j'ai trouvé là, dans l'ordre du temps, que pour le coup, on arrivait très bien à comprendre la déconstruction de nos certitudes sur le temps, de tout ce qu'on pense savoir sur le temps, et que vous arrivez très bien, parce que votre style est très fluide et parce que vous usez très bien de la métaphore, justement, des images, pour arriver à faire comprendre à des lecteurs qui sont parfois assez novices que le temps n'est pas exactement ce qu'on pense qu'il est, ce que l'on pense être, qu'il y a des choses qu'il faut revoir, qu'il faut reprendre sur le temps. Et je trouve que de ce côté-là, vous arrivez très bien à nous préciser ces choses-là. Par exemple, le fait que le temps n'est pas unique, on le savait à peu près avec Einstein que le temps n'était pas unique, mais vous rappelez par exemple que le temps n'est pas le même selon qu'on habite à la montagne ou à la campagne.
On y reviendra. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Bonjour Déborah.
Bonjour.
Vous avez 32 ans et alors pendant longtemps, vous avez été angoissée par l'inexorable écoulement du temps. Une vraie flippée du temps qui passe.
Oui, à l'époque de la naissance de mon premier enfant, donc il y a à peu près 7 ans, comme tous les parents, je pense, je me suis retrouvée face à un vrai vertige parce qu'on connaît rapidement les toutes premières fois avec les enfants, les premiers éveils, les premiers sourires, leurs premières étapes vers l'indépendance. Donc, même si c'est magnifique, puisqu'on est ravis de les voir grandir, ça nous rappelle aussi à notre propre vieillissement et on n'y peut rien. Maintenant, il y avait deux solutions. C'était soit rester face un peu à cette angoisse et puis se dire « Oh là 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 là, moi je vieillis, les enfants grandissent, c'est horrible. » Soit se concentrer plutôt sur le beau et puis accepter cela et mettre à profit ce temps qui défile pour réaliser de jolies choses. Et moi, c'est l'option que j'ai choisie.
Fanny nous dit sur Facebook « Je suis une hyper angoissée du temps qui passe. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Il m'arrive la nuit de me réveiller et d'avoir une angoisse incroyable en pensant que ma vie s'écoule et que chaque jour est unique et qu'inexorablement, je me rapproche de la fin de ma vie. » Carlo Rovelli, vous la comprenez, cette angoisse du temps qui file de façon inexorable?
Alors, plusieurs choses. Oui, évidemment, je vais la comprendre. Je pense que nous, nous tous partageons cette. Elle a dit très, très bien, inexorable écoulement du temps. Il y a quelque chose d'angoissante là. Et pas seulement je la comprends, mais je pense que quand les physiciennes étudient le temps, ils font des théories, ils expliquent que le temps passe à la montagne à des vitesses différentes qu'à la mer, etc., etc. Ils parlent du temps physique et ils ne parlent pas de notre émotion du temps. Mais finalement, ce que je pense, ce que le temps est pour nous, c'est pas vraiment le temps de la physique. Qu'est-ce qu'est le temps pour nous? Ben, le temps pour nous, c'est cet inexorable écoulement du temps. C'est cette angoisse. Et pourquoi? Si vous voulez, tout le bouddhisme est basé sur ça, non? Bouddha a dit que la vie est souffrance. Et pourquoi elle est souffrance? Ben, finalement, parce que le temps passe, parce que les choses disparaissent, s'en vont, parce qu'il y en a, les choses ne restent pas. Il y a aussi le côté opposé. C'est ça, c'est pour ça que la vie est précieuse, c'est pour ça qu'elle est belle. Si rien ne se passait, si tout était dans l'éternité, ce serait une nuit mortelle, je pense. C'est cette breveté de la vie qui l'a fait belle, je pense.
Merci beaucoup, Déborah, de nous avoir appelé. Julien Bisson, vous m'avez avoué que quand vous regardez l'horloge là devant nous et que vous voyez l'inexorable avancée de l'aiguille des secondes, ça peut provoquer chez vous une légère angoisse.
Oui, et encore, je trouve que là, il y a encore un petit intervalle de temps. Les secondes passent les unes après les autres. Ce qui m'angoisse véritablement, vous savez, c'est ces horloges où l'aiguille tourne en continu. Et où, véritablement, là, il n'y a même plus d'espace de petite respiration dans cet écoulement du temps. Parce que là, véritablement, on voit, il y a une métaphore physique de ce temps qui passe. Là on est plus dans les intervalles de temps, comme vous l'évoquez dans votre livre, mais sur véritablement un temps physique dont on a l'impression qu'il nous avale et dont on sait qu'on ne pourra pas revenir en arrière.
Il y a un grand philosophe américain qui s'appelle Reichenbach, c'est philosophie analytique, c'est très scientifique, très dur, qui a écrit que peut-être beaucoup des grandes philosophies du passé et du présent qui nient la réalité du temps, de Parménide à Platon à Hegel, finalement ne sont qu'une réaction à cette angoisse du temps qui passe et une tentative des humaines de nier ce passage.
Oui, je me demandais d'ailleurs ce que vous pensez de la volonté transhumaniste. Vous savez, maintenant, tous ces chercheurs qui essayent d'aller vers l'éternité, qui pensent que l'homme pourrait vivre éternellement. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette ambition de l'homme de vivre éternellement, finalement de mettre fin à la mort et donc d'une certaine façon au temps?
Ben moi, personnellement, je déteste l'idée. Je voudrais pas vivre éternellement. C'est horrible. La vie est aussi souffrance. Je veux pas souffrir pour toujours. mais la vie, c'est aussi des moments absolument merveilleux qui sont exactement beaux et merveilleux parce qu'ils sont brefs.
Alexia Rivière, Mathilde Verfailly, Théodène Matt et Manon Rax m'ont aidé à préparer cette émission et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, jolie môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, jolie môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, jolie môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, jolie môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, jolie môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, jolie môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est doux, jolie môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, jolie môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, jolie môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. Et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, jolie môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, jolie môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, jolie môme.
T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur con qui mauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne que les feuilles monotones. T'es qu'une joie en allée, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue et ma boule, joli môme.
Léo Ferré, joli môme.
Le temps pour tout qui fait coucou et la bonne heure.
Grand bien vous fasse.
Le temps d'histoire pour rien, le temps que je tue pour rire.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, on s'intéresse au temps qui passe en compagnie du physicien Carlo Rovelli. Carlo Rovelli, on parle souvent du temps qui passe, qui s'écoule. Qu'entend-on exactement quand on parle de l'écoulement du temps? De façon évidente, dans notre vie quotidienne, le temps s'écoule du matin au soir, du passé vers le futur. La flèche du temps va de la gauche vers la droite. Est-ce que c'est juste cette idée de cet écoulement du temps, voilà, du passé vers le futur? Que nous dit la physique?
Là, c'est une des choses très étranges qu'on a découvert en physique. C'est-à-dire, dès qu'on regarde la structure élémentaire du monde, les équations de base, la grammaire du monde, là, il n'y a pas de différence entre passé et futur. Et on a découvert ça à la fin du 19e siècle et tout le long du 20e siècle, c'est devenu de plus en plus clair. Donc, on s'attendait que dans la physique de base, il y a le passage du passé vers le futur, le passé fixe, le futur ouvert et tout ça. Il n'est pas là. Donc il est ailleurs. Et c'est ça l'un des grands mystères du temps. D'où viennent cette différence entre le passé et le futur? Pour nous, c'est très différent. Et finalement, il se trouve qu'à avoir avec cette chose un peu mystérieuse qu'on appelle l'entropie.
Expliquez-nous.
Alors l'entropie, c'est le désordre du monde. C'est comme si je mets des cartes tout en ordre et après je les mélange, ils se désordrent. Le monde est un peu comme ça. Ça se désordre tout le temps. Alors, ça, c'est compréhensible, que si je mélange des choses, vont dehors. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est pourquoi il était ordonné dans le passé. Et finalement, et ça, c'est ce que les scientifiques disent, l'entropie était basse dans le passé. Pourquoi l'entropie était basse? Parce que pourquoi le monde était ordonné dans le passé? Et toute notre expérience de différence entre le passé et le futur, par exemple, moi, je me rappelle hier, avant-hier, je me rappelle pas demain, après-demain. Pourquoi? Ah ben, c'est seulement question d'ordre et de désordre. Mmh. Ah, ça, c'est incroyable. Parce que ça bouleverse notre intuition de base. C'est comme si le temps pour nous, qu'est-ce que c'est vraiment le temps pour nous? Le temps pour nous, c'est la mémoire. C'est la mémoire, c'est pour ça que Proust nous apprend tellement sur le temps. Proust, c'est son immense roman, 3000 pages.
À la recherche du temps perdu.
La recherche du temps perdu, exactement. C'est pas vraiment une histoire des choses qui se passent, c'est toute une histoire de ce qu'il y a dans le cerveau, entre les oreilles du caractère, Marcel, qui se rappelle. Donc c'est tout dans sa tête. Et le temps est là, c'est dans notre tête. Le temps pour nous, vraiment, c'est la mémoire. C'est ça qui fait la distinction entre le passé et le futur. La mémoire et le désir, l'anticipation du futur. Donc pour comprendre ce qu'est le temps pour nous, je pense qu'il faut plus regarder notre tête, notre cerveau, comment il marche, que non la physique de base.
Et d'ailleurs, les neuroscientifiques s'intéressent de plus en plus à la mémoire proustienne. Julien Bisson.
Oui, c'est vrai que Proust, c'est celui auquel on pense tout de suite quand on pense au temps subjectif, à cette coexistence entre le passé et le présent. C'est la fameuse scène de la Madeleine où d'un seul coup, la perception nous ramène à un souvenir et où d'un seul coup, ces deux notions se confondent. Proust écrivait ceci, on parlait de l'heure tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une heure? Proust disait, une heure n'est pas une heure, c'est un vase rempli de parfums, de projets et de climats.
C'est beau. Bon. C'est très beau. Dominique, bonjour.
Bonjour.
D'où appelez-vous Dominique?
De Paris, et effectivement, j'ai une vision du temps, enfin, un questionnement sur le temps, qui, par rapport à l'expression traditionnelle de « c'est le temps qui passe », moi, j'ai plutôt l'impression que c'est nous qui passons dans le temps. C'est-à-dire que j'ai une espèce de vision d'un temps-espace, Évidemment, dans lequel effectivement le subjectivisme est très important, et effectivement cette notion de mémoire que vous venez d'évoquer. Mais je veux bien entendre ce que mon questionnement réagit auprès de vos interlocuteurs.
Vous êtes le porte-parole de nombreux mails et appels à ce sujet. Carlo Rovelli, c'est nous qui passons dans le temps et ce n'est pas le temps qui passe ?
Dans un certain sens, oui, sans doute. Et c'est un peu ce qu'on disait. C'est-à-dire, quand on regarde la physique toute seule, on ne trouve pas dans la physique quelque chose qui est notre expérience du temps. C'est une observation ancienne. Et comme Julien disait, il y a un aspect du temps qui est très mental, qui est la mémoire et l'anticipation. Quand on parle du temps, c'est ça, de ça qu'on parle. Mais, en même temps, je voudrais dire, ce sujet qui a l'expérience du temps, ce n'est pas quelque chose de hors de la physique. Parce que nous sommes une partie du monde. Nous sommes un morceau de la nature. Donc, subjectif ici, ça veut dire relationnel. Ça veut dire la relation entre nous et la nature. Et moi, j'ai une métaphore, encore une fois, qui peut-être aide à expliquer, qui est la suivante. Pour des siècles, les hommes se sont interrogés sur le grand spectacle du cosmos qui tourne autour de nous. Le soleil tourne autour de nous, la lune, les étoiles, c'est tout tourne. Et finalement, on l'a compris au début de l'ère moderne avec Copernic et les autres, et on a compris que c'est nous qui tournons. C'est la Terre qui tourne. Nous sommes assis sur un gros caillou qui est en train de tourner sur lui-même. Donc on a bien compris là, mais on a bien compris en faisant référence à nous. Alors il n'y a rien de subjectif, de mental. C'est pas une illusion que le ciel tourne, mais c'est quelque chose que pour la comprendre, il faut regarder soi-même. Et je pense qu'il y a quelque chose de similaire dans le temps. Pour le comprendre, il faut étudier le temps physique, au fond, et découvrir qu'il est très différent du temps de notre expérience. Mais après, pour comprendre le temps de notre expérience, il faut comprendre comment nous marchons, comment notre cerveau marche, et comment il se met en relation, comment ce morceau de nature qui est nous, qui est notre cerveau, se met en relation avec le reste de la nature.
Dominique, est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Oui, en partie, parce que c'est vrai que j'avais moi en mémoire une des expériences du savant, la relativité. Quand on est dans un train et qui est arrêté et qu'on voit partir l'autre train, on a l'impression que c'est notre propre train qui part, voilà.
Carlo Rovelli.
Et oui, c'est similaire, non ? Il y a une autre notion qui est très relative, qui est la vitesse, justement. Ne pas bouger, vitesse zéro, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça dépend. Quand la mère dit au petit enfant ne bouge pas sur le train, elle ne veut pas dire saute de la fenêtre et arrête de bouger avec le train. Elle veut dire arrête de bouger par rapport au train. Donc ce sont des notions relatives.
Alors pourquoi le temps s'écoule-t-il plus vite au sommet du Mont Blanc qu'à la grande plage à Biarritz ou chez vous à Marseille, à la plage du Prado ? Le temps passe plus vite à certains endroits qu'à d'autres ? Expliquez-nous.
Oui. Et ça, c'est quelque chose, c'est la première grande découverte qui, de façon très frappante, nous montre que notre intuition du temps n'est pas bonne. Il y a eu un film il y a quelques années qui s'appelle Interstellar, je pense beaucoup l'ont vu, où le caractère principal a une fillette, une petite gamine, très, 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 très sympa en effet. Et le caractère principal part dans un grand voyage, il va à côté d'un trou noir et revient. Et quand ils reviennent, lui, il est encore un homme de Moyen-Âge et sa petite fille est une vieille femme. Donc pour sa petite fille, 50, 60, 80 années sont passées. Pour lui, seulement quelques années sont passées. Alors ça, on dit, bon, c'est du Hollywood. Non, c'est pas du Hollywood. Ça, c'est exactement comment le temps marche. Et le consultant scientifique du film, cette équipe Thorne, qui dans notre temps a pris le prix Nobel, justement pour la découverte des ondes gravitationnelles aux côtés du trou noir, donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, le temps ne passe pas à la même vitesse pour tout le monde. Quand on va près du masse, donc près de la mer au lieu que la montagne, ou encore plus près d'un trou noir, le temps ralentit. Tout passe plus lentement. On vieillit plus lentement, une pendule oscille plus lentement, etc., etc., etc. Il n'y a pas un temps commun. Il y a plein de temps. Chaque endroit a son propre temps.
Pour vous faire plaisir, un extrait d'Interstellar.
Est-ce que... il y a la moindre possibilité, disons, je sais pas, un super moyen peut-être de tous sauter dans un trou noir, de récupérer les années. Gardez vos airs supérieurs.
Le temps est relatif, ok? Il peut s'étirer ou se contracter, mais... En aucun cas, il ne peut faire marche arrière. En aucun cas, non. Et la seule chose qui soit en mesure de traverser les dimensions telles que le temps, eh bien, c'est la gravité. Écoutez, Cooper, j'ai merdé. Je suis désolée. Mais vous connaissiez la relativité. Oh.
Ma fille avait 10 ans. Les théories d'Einstein, elle était trop jeune pour que je les lui apprenne.
Extrait d'Interstellar de Christopher Nolan. Carlo Rovelli, pourquoi le temps n'est-il pas réversible? Pourquoi ne peut-il pas s'écouler en sens inverse? Pourquoi, si je casse un verre sur le carrelage, ne peut-il pas redevenir un verre en bon état?
Mais c'est à cause de ce qu'on disait avant, c'est à cause de cette histoire de l'entropie, c'est à cause de ce désordre qui augmente. Nous avons tous l'expérience que si je mélange quelque chose, ça, j'augmente le désordre. Et donc il y a une partie de réponse facile à cette question, mais il y a une partie de la réponse, au contraire, qui est encore mystérieuse et qui reste l'un des grands mystères du temps. Et c'est-à-dire, oui, voilà, une fois qu'on a compris ça, pourquoi les choses étaient ordonnées dans le passé? Et ça, on ne le sait pas.
Julien Bisson, il y a un personnage de Scott Fitzgerald, adapté au cinéma par Fincher, qui est capable de revenir en arrière. Benjamin Button.
Oui, alors il revient en arrière. Lui, il part de la vieillesse pour revenir vers l'enfance. Et d'ailleurs, le film s'ouvre sur une image très belle qui est le père de ce personnage qui construit une horloge dont les aiguilles vont à rebours. C'est une image assez forte. Mais c'est vrai que même dans Interstellar, il faut rappeler aussi que dans Interstellar, sans dévoiler toute la fin du film, mais on peut arriver à naviguer sur cette flèche du temps. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? C'est un grand fantasme de la science-fiction et puis de beaucoup d'entre nous ici, qui est le voyage dans le temps. Est-ce que nous-mêmes, nous pourrions, d'une façon ou d'une autre, revenir à un état du temps il y a 10 ans, 15 ans, et voire même bien plus avant?
Mais moi, je pense que oui, dans un certain sens. C'est-à-dire dans le sens qu'il n'y a pas, il n'y a rien qui l'empêche a priori. Parce que ce passage du temps pour nous, finalement, c'est la mémoire, comme on disait avant. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire aller en arrière dans le temps? Ça voulait dire être consciente d'un certain moment du temps en ayant la mémoire du futur. Eh bien, pourquoi pas? Il n'y a rien qui empêche d'avoir de la mémoire du futur. Finalement, même dans la physique classique la plus simple, si on se rappelle Laplace, si on connaissait parfaitement la position de toutes les molécules aujourd'hui, on pourrait calculer tout le futur et tout le passé également. Donc, la raison pour laquelle nous connaissons le passé mieux que le futur, c'est une question statistique, c'est rien de fondamental. Rien n'empêcherait a priori de pouvoir se rappeler le futur. Et ça, ce serait comme naviguer dans le temps.
Carlo Rovelli, pourquoi maintenant ne veut rien dire?
Ah, ça c'est l'autre grande question.
Alors j'aimerais, pour bien comprendre cette histoire, imaginons que ma sœur soit en ce moment sur la planète Proxima B, récemment découverte. Si je me demande ce que fait ma sœur maintenant, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens, exactement.
Pourquoi?
Alors, si je me demande ce que vous, Ali, faites maintenant, je vous regarde. Et si vous voulez savoir ce que je fais maintenant, vous me regardez et vous voyez, moi, que je suis italienne, j'agite ma main devant le microphone. Mais, il y a un mais, et c'est quoi le mais? Quand je vous regarde, il y a de la lumière qui voyage de vous à moi. Et ça prend du temps. Ça prend nanosecondes, quelque chose comme ça. Alors, quelques nanosecondes, pour nous, c'est rien. Donc, c'est rien. Donc, je vous regarde maintenant, pas dans le futur. Mais si votre sœur est sur Proxima B, qui est 4 années-lumière, comme ça, le temps que vous le regardez, ça fait 4 ans. Et le temps qu'elle vous regarde, ça fait 8 ans. Donc, si vous le regardez et vous répondez à une question à elle, il y a 8 ans entre l'aller-retour de la lumière. Et à l'intérieur de ces 8 ans, quel est le moment qui correspond au maintenant ici? Alors, il y a une longue discussion en physique. On connaît bien la physique de la lumière et de tout ça. Et la réponse correcte est, c'est pas une bonne question. Il n'y a pas de maintenant ailleurs. Alors, pour le dire d'un autre mot, ici, maintenant, ça signifie quelque chose. Here and now, comme on dit les Anglais. Ici, maintenant, c'est parfaitement significatif. Mais maintenant, tout seul, ne veut vraiment rien dire. Parce qu'on peut dire maintenant à la distance où je néglige la vitesse de la lumière, mais maintenant sur une galaxie lointaine n'a aucune signification.
Et vous écrivez joliment dans votre ouvrage « L'ordre du temps », le présent forme une bulle autour de nous.
Exactement. Donc, quand on parle du présent, on parle du maintenant. Et ce présent, c'est une petite région autour de nous. Pensez, et tous les relativistes qui étudient la relativité générale le savent très bien, pensez que dans l'univers entier, il y a un maintenant commun ici et partout, c'est une erreur.
Julien Bisson.
Oui, ça me rappelle, vous le rappelez vous-même dans votre livre, que Einstein, avant qu'il découvre la théorie de la relativité générale, s'est intéressé au fait que tous les temps, dans les gares notamment, n'étaient pas accordés, et qu'il fallait essayer d'accorder tous les temps partout à travers l'Europe, et que ça avait posé cette question de quel est le maintenant, le même maintenant à Paris, à Londres, à Rome, et comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que tous ces maintenant se passent en même temps. Et que ça l'avait beaucoup fait travailler, justement, ça l'a fait beaucoup fait réfléchir, et l'avait mené à s'intéresser à la question du temps.
Oui, exactement. Et c'est vraiment les étranges casualités de la vie. Parce qu'il ne s'était pas intéressé à ça pour des raisons de curiosité intellectuelle. Il n'avait pas trouvé, comme on sait bien, un poste à l'université. Donc, il était obligé à travailler au bureau de brevet à Berne. Et donc, il travaillait sur les brevets déposé pour accorder les horloges dans les gares de France et d'Allemagne. Et donc, il s'est rendu compte, mais ça, c'est merveilleux, au moment où, pour des régions d'avancée technologique, on a la nécessité d'accorder les horloges et définir un moment bien précis pour que les trains puissent marcher bien autour de l'Europe, à ce moment-là, la physique se rend compte que finalement, c'est impossible. Le faire de façon exacte, c'est impossible. Il n'y a pas du maintenant, c'est pas bien défini. Le maintenant, c'est une notion approximative.
Julie nous a posté ce message sur Facebook. Le temps existe-t-il vraiment? Car nous sommes toujours dans le présent finalement. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Julie?
Moi, j'écris quelquefois le temps n'existe pas.
Oui.
Donc, Julie a raison à dire il y a un sens dans lequel le temps n'existe pas. Le danger de dire une chose comme ça, qu'on peut la prendre trop forte. Donc le temps n'existe pas, on s'imagine que tout est bloqué, rien ne change. Évidemment non, tout change. La vie est changement, la nature est changement. Mais ce changement n'est pas ordonné dans un temps commun. Donc il y a des aspects de ce que nous appelons naturellement, normalement, temps, qui n'existent pas. Il y a quand même un changement de base. La nature n'est pas figée, sa évolution continue. Watching the surface on the burning gap. A few times I nearly packed up my bags. You said, baby, please don't leave. There is so much we've left to see.
Glider interprété Swimming.
On croit que c'est facile de ne rien faire du tout. Il faut passer le temps. C'est tout un travail.
Grand bien vous fasse.
Il faut passer le temps. C'est un travail de titan.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, on s'intéresse au temps qui passe en compagnie du physicien Carlo Rovelli. On a un courriel pour vous, Carlo Rovelli. Quel est le phénomène qui consiste à avoir l'impression d'avoir déjà vécu un instant ?
Je pense que ça n'a rien à voir avec la physique, ça n'a rien à voir avec les mystères du temps dans la nature. C'est quelque chose qu'il faut demander au psychologue. Alors, et je pense que ça a exactement à voir avec le fait que pour nous, la sensation du temps, c'est toujours lié à la mémoire. Donc c'est notre cerveau qui crée cette impression du temps et le crée avec des sauts, des imprécisions, des étranges phénomènes.
Pourquoi le mystère du temps, au fond, nous trouble depuis toujours ? Pourquoi réveille-t-il des émotions profondes ? Vous parlez de l'émotion du temps dans votre ouvrage.
Oui, parce que je pense que le temps est lié à notre identité, à ce que nous sommes. Si nous n'avions pas de mémoire complètement, nous n'existerons pas dans le sens d'être un sujet, de pouvoir penser à soi-même. Parce que quand je pense à moi-même, finalement, ce que je pense, c'est à moi petit, moi il y a 3 ans, moi il y a un moment, moi quand j'ai pris ce crayon dans ma main, etc., etc. Donc nous sommes des histoires. Notre identité, c'est l'identité d'une histoire. Et donc, nous sommes dans le temps. Nous sommes temps.
Alors, un courriel nous dit, courriel de Virginie, c'est au lycée que j'ai découvert que les étoiles que l'on observe sont pour la plupart déjà disparues. Ça a été une grande révélation qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Quand je vis quelque chose de difficile, le regard vers les étoiles me permet de relativiser.
Oh, quelle belle considération. Je pense que tout scientifique comprend ça. Parce que ça, c'est une belle considération, parce que ça met ensemble deux côtés. Non ? Un côté, c'est une découverte scientifique, c'est quelque chose qui est vrai. Une autre côté, c'est le fait que on comprend que les choses sont différentes de ce qu'on voit. On voit toutes ces étoiles et on se rend compte que on voit pas la réalité maintenant. on va les passer. Et la troisième chose, c'est que de là, on en tire quelque chose qui nous touche de façon existentielle. Et c'est ça, je pense, la beauté du parcours de la science. Nous apprenons des choses. Nous apprenons que la Terre tourne, que nous sommes un petit morceau dans une grande mer des galaxies, que nous sommes des frères avec les autres animaux. Et ça nous change la façon de penser à nous-mêmes. Ça, c'est grandir. C'est l'humanité qui grandit comme les enfants qui deviennent grandes et on regarde les choses avec un peu plus de vision large.
Il y en a un qui sait ce que ça veut dire le temps. Qu'est-ce que c'est le temps ?
Une minute, c'est 60 secondes. Une heure, 60 minutes. Romy a 8 ans et demi. Cette notion, elle la maîtrise.
Toi, d'après le temps, il est passé comment ?
Vite. Pourquoi le temps passe vite et des fois, il passe lentement ?
Il y a le temps que l'on mesure, la durée que l'on mesure sur sa montre, par exemple, et puis il y a le temps que l'on ressent, et qui est différent en fonction de si tu es triste, si tu es joyeux, si tu es excité, si tu es endormi. C'est variable en fonction de ton état émotionnel.
Une chose est sûre, ils n'ont pour l'instant pas très envie de grandir.
Et c'est bien de vieillir ou c'est pas bien de vieillir ?
C'est pas bien.
Pourquoi c'est pas bien ?
Parce que tu te rapproches de la mort.
Ah, tu penses, toi ?
Oui. Moi, je me crois bien rester à 6 ans.
C'est normal que j'ai peur que le temps passe.
Rassure-toi, tu as encore beaucoup de temps avant de devenir un adulte. Et ce qui est important, c'est finalement de profiter de chacune des minutes de ta vie. Et si à chaque fois tu es content d'être en vie, tu verras, tu n'auras plus peur que le temps passe.
Extrait du JT du 7 mars 2017 sur TF1, dialogue entre des enfants et le pédopsychiatre Stéphane Clerget. Ça vous inspire quoi, tiens, Carlo Rovelli?
Ah ben, c'est, mes félicitations à ce monsieur, il est très bien évidemment. Mais une surprise. Moi, peut-être je me rappelle mal, mais il me semble que quand j'étais gamelle, je voulais grandir, oui. Je voulais très, très vite devenir grand. Je voulais pouvoir faire des choses qu'en tant que gamelle, je ne pouvais pas manger de la chocolat, par exemple.
Alors, vous citez le Mahabharata dans votre ouvrage, L'Ordre du Temps. Mahabharata qui nous dit « Chaque jour, d'innombrables personnes meurent et pourtant, celles qui restent vivantes vivent comme si elles étaient éternelles. » Vous qui vous passionnez pour la question du temps, quel rapport entretenez-vous avec la mort, la sœur du sommeil ?
J'ai écrit le dernier chapitre du livre sur ça. En faisant un peu forcing par rapport au livre qui finalement parle de science,
oui. Parce que,
surtout parle de science, mais j'ai décidé de parler avec mon rapport à la mort, justement parce que la question du temps touche au rapport à la mort. Et moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai peur de, non, pas vraiment. J'ai peur de vieillir, d'être faible. J'ai peur qu'on ne m'aime plus. J'ai peur de souffrir, tout ça, de la souffrance. Mais finalement, je suis arrivé jusque-là, mais maintenant j'ai 60 ans passés. Quand j'étais jeune, j'avais peur, pas peur de la mort. Je n'étais pas comme ces gamins-là. Mmh. Je voulais courir, je voulais aller. Et je pensais que la peur de la mort serait arrivée plus tard. Et non, je n'ai pas peur de la mort. Je pense que, comme j'ai dit au début de l'émission, je pense que la vie est belle parce que, bref, nous sommes mortels. Il faut, je pense, regarder dans les yeux cette vérité et l'apprécier et en trouver sa beauté.
Et vous écrivez, vous dites quelque part, c'est pas dans votre ouvrage, mais vous dites que le temps de la vie est un temps juste.
La notion de justesse, je pense que c'est, il faut adapter notre notion de juste à ce que réel, nous ne pouvons pas changer, pas le contraire.
Alors il paraît, Carlo Rovelli, que vous n'aimez pas beaucoup le temps structuré, que vous n'aimez pas les contraintes liées au temps.
Ah non, je déteste, peut-être c'est pour ça. Alors on peut se montrer côté italien, évidemment, c'est-à-dire nous les Italiens, on est en retard, on n'arrive pas à gérer les temps bien. Peut-être
c'est ça, caricatural, ça.
Oui, c'est caricatural, évidemment. Mais tous les jours sont un peu différents et je déteste les règles en général, les règles strictes. Donc, voilà.
Alors vous l'avez dit, vous avez un peu plus de 60 ans. Est-ce que vous avez l'impression que le temps file plus vite à mesure que vous vieillissez?
Oui, je l'ai, comme je pense tout le monde l'a. Ça a été étudié par des psychologues, cet effet, c'est très fort, c'est très réel. C'est-à-dire les années des jeunes sont plus longues que les années des vieux. Je pense qu'on ne sait pas d'où viennent exactement. Il y a beaucoup d'explications possibles.
Votre explication?
Ben, probablement, on a beaucoup plus de mémoire quand on est vieux. Donc, finalement, on compare un an avec tous les ans passés avant, on se rend compte que c'est peu. Par contre, je m'appelle très bien, mais été, quand j'étais jeune, elle durait toujours. Une année d'école, c'était, oh mon Dieu, l'année prochaine, ce sera le millénaire suivante.
Comment vous expliquez l'idée que, ben voilà, on a cette impression d'accélération du temps? Il y a beaucoup d'ouvrages, ouvrage d'un grand sociologue allemand qui s'appelait Accélération, Hartmut Rosa, qui avait publié cet ouvrage. D'où ça vient, cette impression d'accélération du temps?
Alors moi...
Et dans le même mouvement qu'il faille ralentir, justement.
Alors moi... je suis peut-être un peu j'ai un point de vue un peu particulier sur ça. Moi, je crois que c'est pas réel, c'est un phénomène de perspective. Encore une fois, la mémoire, on se rappelle plus de choses proches que de choses lointaines. Donc, il semble que le passé allait lente et que le futur et que le présent va plus vite. Mais c'est pas vrai, parce que, par exemple, une chose qu'on dit toujours, la technologie est en train de changer nos vies. Non? Alors, durant ma vie, la technologie, qu'est-ce qui a changé? Il y a un peu plus d'avions, il y a des ordinateurs, évidemment, ça a changé les choses, leurs ordinateurs. Mais si je pense, je sais pas, ma grand-mère, ma grand-mère a vu arriver la radio, la télévision, les automobiles pour tout le monde, les avions. Ça a changé sa vie. Le réchauffement électrique partout, c'est-à-dire le changement technologique qu'il y a eu durant la vie de ma mère, c'est énorme par rapport au nôtre. Donc l'accélération technologique n'est pas là, on est dans une décélération technologique.
Au fond, Carlo Rovelli, on ne voit jamais le temps, mais on voit les choses changer.
Bravo, ça c'est la réduction dans une ligne de tout ce que je voulais dire dans le livre. Le temps est compliqué et structuré, et la seule chose qui reste du temps, c'est celle que vous voulez dire.
Merci beaucoup Carlo Rovelli. Avec Julien Bisson, on recommande vraiment L'Ordre du Temps, qui m'a aidé à mieux comprendre certains mystères du temps. C'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup Carlo Rovelli.
Merci.
À suivre.
Merci Julien.
Tout de suite, Julien Bisson, rédacteur en chef de l'Hebdomadaire. Julien Bisson, vous nous incitez à manger local.
Oui, on revient sur la nouvelle vogue des circuits courts en termes d'alimentation. Et si ces circuits courts sont si populaires, ce n'est pas pour gagner du temps, cher Carlo Rovelli, mais plutôt pour renouer avec les produits locaux, retrouver le lien entre le champ et l'assiette, casser cette logique qui allait de la ferme à la firme. Face à la force de frappe de la grande distribution qui a brandi des décennies durant l'argument massu des prix bas, voire écrasés, écrasant aussi au passage les producteurs, la tentation du local a longtemps été muselée. Il fallait ménager le panier de la ménagère, donc on allait chercher en Espagne de la tomate au goût de carton, mais tellement bon marché, au Burkina Faso des haricots verts extra fins, défiant toute concurrence. Et quand les hypermarchés fêtaient qui le cochon, qui le bœuf, qui le lait, ils cassaient tellement les tarifs qu'on se disait bien qu'au bout de la chaîne, des paysans devaient bien crever de faim. Mais de vaches folles en fièvre de cheval, de crises porcines en déroute laitière, de scènes insoutenables d'abattage en propagation d'herbicides, pesticides et autres substances cancérigènes, le local a retrouvé le moral. On peut manger mieux sans se ruiner, en permettant à des exploitants agricoles de vivre et travailler au pays, comme disait le slogan syndical des années 70. Et aujourd'hui, ce sont plus de 40% des Français qui disent acheter en circuit court, via des marchés de producteurs, des AMAP ou encore des ruches, ces espaces de vente tirant le meilleur profit des nouvelles technologies.
Alors Julien Bisson, une idée reçue voudrait que les circuits courts, ce soit des pratiques hors de prix réservées aux bobos parisiens ou des grandes métropoles.
Eh bien, c'est une idée reçue et qui, comme beaucoup d'idées reçues, doit être battue en brèche. C'est en tout cas ce que nous explique la sociologue Yuna Chifolo, que nous avons interrogée. Selon elle, à qualité égale et en respectant la saison, les prix y sont en moyenne moins chers que dans les grandes surfaces. Surtout, ils permettent de mieux rémunérer les producteurs en supprimant certains intermédiaires. En retour, ceux-ci sont davantage tentés par la qualité. Nous avons mené une étude sur les fruits et légumes en Bretagne dans le Limousin, explique cette même Yuna Chifolo, où les cultures sont assez intensives. Les producteurs, même s'ils en viennent au circuit court par pur opportunisme économique, écologisent petit à petit leurs pratiques. Ils sentent qu'un jour, les consommateurs les interrogeront sur les pesticides qu'ils utilisent. C'est ce que dit aussi Nicolas Chaban, vous savez, qui a lancé la très populaire marque de consommateurs, c'est Qu'il Patron, qui est cette petite brique de lait bleu notamment, que beaucoup de Français ont découvert depuis 2 ans. Et il ne dit pas autre chose, il dit « Notre expérience, c'est que la qualité découle de l'équité ». Il y aurait donc un cercle vertueux qui pourrait s'opérer, un pacte entre consommateurs et producteurs pour remiser près d'un demi-siècle de course au gigantisme. Et ça, d'ailleurs, les grandes surfaces l'ont bien compris, elles qui connaissent une grave crise d'identité et veulent désormais jouer la carte de la proximité, du bucolique, du régional. Ce qui manque pas d'ailleurs d'agacer certains producteurs locaux qu'on a été interrogés, comme par exemple Dominique Olivier qui dirige la coopérative des fermes de Figeac et qui dit ceci, il y a des effets d'affichage, vous avez un mariole agriculteur en tête de gondole et derrière c'est 30 mètres de linéaire charal, tout comme le bio-industriel qui va donner lieu à des scandales sanitaires dans 2 ou 3 ans et casser l'image du bio. Ce type de local washing peut casser celle des produits locaux. Bref, c'est toute cette galaxie du circuit court qui mêle le nouveau à l'ancien, le petit marché de producteurs aux applications les plus innovantes que nous avons explorées dans ce numéro du 1. Et permettez-moi pour conclure, cher Carlo Rovelli, de citer Goethe, que le temps obsédait lui aussi, et qui nous rappelle à la mesure et à la qualité combien fécond le plus petit domaine quand on sait bien le cultiver.
Merci beaucoup Carlo Rovelli d'être venu cet après-midi. Je rappelle le titre de votre livre, L'Ordre du Temps, demain après-midi, quand Tintin nous aide à philosopher.